Bonjour, bonjour, ici Jeanne-Hélène et bienvenue à cet épisode de mon podcast C'est juste une croyance. Aujourd'hui, on parle des croyances associées à la peur de parler en public. Avez-vous peur de parler en public? Comment vous vous sentez à l'annonce d'une présentation que vous devez faire en personne ou même en webconférence avant de plonger dans cette peur qui est très commune et d'ailleurs très, très, très facile, très facile à laisser aller. Je vous invite à joindre mon site web hypnocoach.ca et recevoir mon infolettre chaque semaine et des invitations à des événements gratuits.
Elle vit au merveilleux pays de l'état d'hypnose et découvre les trésors cachés dans votre inconscient. Elle rit, elle aime, elle respire, elle creuse, elle transforme et transitionne et rit encore. Et elle sait plus que tout que c'est juste une croyance.
Est-ce que ça vous arrive à la pensée de savoir que vous allez présenter en public, de ressentir que vos mains sont moites, que votre cœur s'emballe? Faites-vous des cauchemars? Est-ce que ça vous arrive de ne pas dormir plusieurs nuits avant de faire une présentation? Évidemment, ce sont des symptômes physiques. C'est un stress associé à la présentation, à faire une présentation en public. Et on le sait, chaque pensée crée une réaction dans votre corps. Si on pense au citron, je fais souvent cette analogie, mais pour moi, c'est la plus facile. Quand on se ferme les yeux, qu'on imagine un citron, qu'on pense au jus du citron, juste la pensée crée dans notre corps, puis là, ça le fait au moment, à chaque fois que je le dis, ça me le fait. Ça crée de la salive. Ça crée une réaction physique pour vous préparer. En fait, le corps se prépare à recevoir un citron et pourtant, il n'y a pas de citron. C'est juste la pensée du citron. La pensée de faire une présentation provoque aussi chez plusieurs personnes. C'est une peur très, 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 très répandue. Donc, qu'est-ce qui vous croyez? Quels sont les moments dans la vie où est-ce que vous pensez qu'on développe des croyances associées à la peur de faire des présentations en public? À quel âge pensez-vous? À quel moment? Quels sont le type de situations qui pourraient engendrer, créer ces peurs de parler en public? Moi, je vous le dis, 99,9% du temps, on se retrouve en classe. Et oui, on se retrouve en classe. Et là, qu'est-ce qui arrive? On n'a pas la bonne réponse. On se fait poser une question. Le professeur nous pose une question, on n'a pas la bonne réponse. On est pour faire une présentation. On se souvient plus de rien. On a un blanc tout d'un coup. On fait une présentation. On en oublie des bouts. On fait une présentation. Les élèves rient de nous. On se fait réprimer en classe. Ça tourne beaucoup autour de ça. Des parents qui nous stressent, qui nous parlent de notre présentation tout le temps, qui nous disent qu'on ne sera pas bon si on ne fait pas ci, si on ne fait pas ça, qui nous poussent à l'extrême. Ça ressemble un peu à ça, des moments où des gens forment des croyances. Ça ressemble souvent à ça. Et vous, est-ce que vous vous souvenez d'un moment en classe quand vous étiez enfant où vous vous êtes senti embarrassé, vous avez eu peur? Ça, c'est la situation. Les croyances qui en découlent sont « je vais être rejeté, je vais être rejeté ». Puis ça, on le sait, c'est une des peurs. Écoute, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Donc, ça va être nécessairement associé à ma valeur. Je serai pas à la hauteur des attentes. Beaucoup de mes clients sont des gens super performants. Puis quand ils étaient enfants, beaucoup d'entre eux étaient vraiment performants à l'école. Et plusieurs me disent, wow, la barre là était toujours plus haute pour moi. Les attentes étaient toujours élevées. Devant des attentes vraiment élevées, cette espèce de pression à rencontrer des attentes où la barre est toujours plus haute, donc c'est jamais assez. La personne n'est jamais assez. Donc, on y va, on est là, on est en classe, les gens rient de nous et là, on interprète que on va, si les gens rient de nous, ben, on va finir on va être rejeté, puis si on est rejeté, ben, on va être tout seul, puis si on est tout seul, ben, finalement, ça, c'est la vieille peur, on ne va pas survivre. On le sait, c'est une peur ancestrale, tribale, mais aujourd'hui, en 2022, en fait, même si les gens ne nous apprécient pas, on va quand même survivre. En fait, l'idée, c'est aussi cette idée que les gens peuvent nous donner de la valeur, nous enlever de la valeur. S'ils apprécient notre performance, on a de la valeur. S'ils ne l'apprécient pas, on n'a pas de valeur. Ça, c'est quand on est enfant. Puis c'est tout à fait approprié pour un enfant de vouloir être aimé, être apprécié, de vouloir faire partie du groupe. C'est absolument normal. Donc, la pression qu'il y a de performer. Et on sait que le stress, qu'est-ce que ça induit? Bien, évidemment, ça induit des réactions de freeze, de gel. Donc, la personne, d'avoir un blanc parce qu'on est trop nerveux, c'est absolument normal. C'est une chose absolument, absolument normale. Des gens qui intègrent, qui ne sont pas intelligents. Ah oui, j'ai commencé à croire que j'étais idiot, que je n'étais pas intelligent à ce moment-là. J'ai intégré ça. Donc, à chaque fois que je vais parler en public, le petit hamster qui roule, là, ce qu'il me dit dans ma tête, c'est « t'es pas intelligent ». Les gens vont rire de toi. Les gens t'aiment pas, t'apprécient pas. Tu vas faire une folle de toi, un fou de toi, etc. Tu vas être rejeté. Tu vas te retrouver tout seul. Tu vas perdre ton emploi. Tout le scénario de catastrophe. Donc, c'est le dialogue intérieur qui est là. Des fois, la mauvaise réponse, ça c'est... ou pas savoir la réponse, c'est un cas classique aussi. Puis des fois, je vais dire aux gens, imaginez il y a 30 ans. Combien d'élèves dans une seule journée à travers le monde n'avaient pas la bonne réponse? Là, les gens vont dire « ouais, quand même ». Au moins un par classe ou au moins un par école qui n'avait pas la bonne réponse. Où sont ces gens-là aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont nécessairement au bord de la société, complètement rejetés? Est-ce qu'ils sont... Non, il y a probablement une couple normale parmi ces gens-là qui n'avaient pas la réponse au jour-là, de gens qui ont eu du succès, de gens qui ont eu des vies plus difficiles, des gens qui sont décédés, des gens qui ont des enfants, des gens qui ont des business, des gens qui sont millionnaires, d'autres qui sont pauvres, d'autres qui sont... Voilà. Il y a sûrement une courbe normale de tous ces gens qui n'avaient pas la réponse à un moment donné. Parce que ce jour-là, ils n'écoutaient pas, parce qu'ils n'avaient pas bien appris cette leçon-là, parce qu'il s'était passé autre chose, ils n'avaient pas la réponse. C'est, comme on dit, approprié à l'âge. C'est approprié à l'expérience d'être un enfant, un jour de ne pas avoir la réponse ou la bonne réponse. Et là, ce qui est intéressant, c'est la réponse autour. Si on n'a pas la bonne réponse et qu'on se fait ridiculiser, ou qu'on sent la déception du professeur parce qu'on est un super bon élève et que là, on ne l'a pas eu, là, c'est la déception, on ne sera plus aimé, on ne sera plus apprécié. Il y a beaucoup de pression attachée à l'idée de performer, d'avoir la bonne réponse. Donc, souvent, la personne va me dire « Ah, je déçois mon professeur, je déçois mon parent. » Alors qu'en réalité, il n'y a rien d'anormal pour un enfant de ne pas savoir une réponse. C'est absolument normal. Ça arrive à tous les enfants. Ça arrive dans toutes les classes, à tous les jours. Ce n'est pas un fait extraordinaire. Comme on dit, c'est approprié à l'expérience d'être un enfant. Ensuite, c'est la réaction autour. C'est toujours ça, souvent, qui va créer, en fait, la croyance. L'internalisation. On va commencer à penser à partir de ce moment-là qu'on n'est pas intelligent, qu'il faut absolument se super préparer à tout, à toutes les questions, à tout ce qui pourrait arriver. Donc, ça, c'est intéressant. Moi, je me souviens, en fait, j'ai la réponse des professeurs. Sous hypnose, je dois vous dire, tous les mauvais professeurs de la planète, je les vois. En fait, c'est incroyable le rôle de professeur, à quel point ça a un impact dans la vie des gens. Puis je sais que c'est des êtres humains puis qui ont leur bonne et leur mauvaise journée, mais il y a des empreintes claires. Je me souviens, j'avais un professeur qui nous avait demandé de trouver un mot avec la lettre G. Et moi, quand j'étais enfant, je lisais beaucoup. Ma grand-mère, chaque fois qu'elle venait me voir, elle m'apportait, me donnait un livre de la comtesse de Ségur. Et je lisais, j'ai lu, comme plusieurs d'entre nous, toute la collection. Et dans ces livres de la comtesse de Ségur, il y avait évidemment un vocabulaire un peu différent du vocabulaire qu'on pouvait avoir sur la rue, à l'école ou avec nos parents. c'était du français plus vieux ou du français plus classique et c'était moins dans notre vocabulaire usuel. Donc, moi, je me souviens, j'avais dit le mot « gueux ». Gueux. Je pense que j'avais avoir 8 ans. G-U-E-U. Je pense qu'il y avait un 8, mais je ne suis pas sûre. Non, je ne pense pas. Je m'en souviens pas. Anyway. Et là, le professeur m'avait ridiculisé. Il m'avait dit, ben voyons donc, c'est un vieux mot. On n'utilise plus ça, ce mot-là. Ça, c'est un vieux français. On n'utilise pas ça. Puis, il m'avait vraiment ridiculisé devant la classe. Déjà que j'étais ridiculisée par les jeunes de mon âge parce que j'utilisais pas toujours du vocabulaire usuel, parce que je lisais beaucoup des vieux livres français que ma grand-mère me donnait et parce que mon père me faisait chercher beaucoup dans les dictionnaires puis dans les livres. Ça, c'est une autre histoire, mais j'ai des dons, des capacités de recherche exceptionnelles parce que mon père me faisait toujours chercher dans les livres, dans les encyclopédies, dans les dictionnaires, constamment. Il me quizait tout le temps, là, puis non seulement il me posait des questions puis des quiz, mais en plus de ça, il me poussait à aller rechercher, en tout cas. Ça m'a vraiment donné des capacités de recherche assez intéressantes. Mais quoi qu'il en soit, j'étais déjà ridiculisée en raison de mon vocabulaire à l'époque. Donc, ça n'a pas aidé. Et là, de là, le sentiment, en fait, c'est ça, d'être rejetée, oui. Alors qu'en réalité, si on regarde ça objectivement, c'est un mot français qui n'était peut-être pas habituel, mais le professeur aurait pu avoir une autre réaction aussi, qui aurait pu être « Ah ouais, t'as pris ça dans quel livre, puis dans quel contexte, puis qu'est-ce que ça veut dire? OK, c'est intéressant, on ne l'utilise pas souvent, mais bon, c'est un vrai mot. Je ne l'avais pas inventé quand même. » Alors c'est de se remettre en contexte, d'être capable de regarder ça maintenant objectivement. Donc, est-ce que ça m'arrive de me retenir d'utiliser des grands mots ou des longs mots? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive absolument. C'est pas parce que je n'ai pas de vocabulaire. C'est que c'est clair que cette empreinte-là est restée là quelque part. Si on avance un peu dans le processus, une fois qu'on voit de quelle façon, à quel moment on a intégré des croyances qui nous créent cette peur de parler en public maintenant, ensuite vient le temps de les défaire. Et puis ça, c'est intéressant parce que ça ne se manifeste pas dans toutes les sphères de parler en public. J'ai des gens qui, s'ils parlent devant une audience de personnes qui connaissent déjà le sujet avec des experts comme eux, ils se sentent super bien. Mais s'ils parlent je me souviens, j'avais un client qui, lui, devait parler à des investisseurs de capital de risque pour son entreprise, pour des investissements pour son entreprise, et il était tétanisé à chaque fois. Il trouvait que les gens ne comprenaient pas de ce qu'il parlait, puis il lui posait des questions par rapport, puis des questions qui, pour lui, n'avaient pas d'importance. Il l'amenait tout le temps sur des terrains difficiles. Il se sentait vraiment inhabile. Et ça, on l'a vraiment travaillé. Et je vais vous donner un peu comment. Mais après, il faisait ces présentations-là, puis c'était très facile pour lui. C'est vraiment quelque chose de facile à défaire et c'est simplement le discours, en fait, qu'on entend dans notre esprit, notre narratif qu'on se raconte à nous au moment où lui était comme devant les investisseurs en capital de risque. Je me souviens, c'était les conférences, les affaires. Il y a 7-8 ans, je faisais une présentation sur la marque employeur et je faisais une présentation à mes pairs, à des CHRO, des VP RH et il y avait beaucoup de VP marketing aussi. C'était vraiment tous des gens de haut niveau, donc je parlais à des experts. J'étais nerveuse, là. J'étais tellement nerveuse, tellement que j'avais Mirio, le gars du marketing relations publiques, dans la salle qui me faisait des signes. Tu sais, j'avais dit, fais-moi le signe quand je parle trop vite, parce que quand je suis nerveuse, je parle trop vite. Bah, souris-moi, peu importe. Mais il m'avait vraiment préparé et aidé parce que j'étais morte de trouille de parler devant des experts. Et là, c'était le syndrome de l'imposteur. C'était de dire, oh mon Dieu, ils vont se dire que ça n'a pas rapport. Puis pourtant, mon sujet, maintenant, quand je regarde, mon sujet était vraiment intéressant, puis il était bien bâti, puis il était original, mais dans ma tête, ça roulait que c'était des experts à qui je parlais. Et quand je parle à des gens qui ne sont pas des experts, pour moi, c'était plus facile à l'époque. Donc, si j'avais fait cette même présentation de marque employeur à une autre audience, ça aurait été beaucoup plus simple parce que je me positionnais en tant qu'expert. Donc, tout ça est évidemment en fonction des croyances qu'on a emmagasinées quand on est enfant. Et vous, c'est devant quel genre de groupe que vous trouvez ça plus difficile de présenter, de faire des présentations? Est-ce que vous êtes capable de faire un lien avec les croyances que vous avez? Qu'est-ce que vous entendez dans votre esprit quand vous présentez devant soit un groupe de pairs ou que vous présentez devant un groupe de gens qui ne vous connaissent pas ou qui vous connaissent ou quand vous présentez devant un groupe de néophytes, peu importe. Donc, l'idée, c'est, comme on voit, c'est pas la circonstance, c'est vraiment le dialogue intérieur qu'on a. Là, maintenant, je vais vous ramener loin, puis là, vous avez le droit de rire de moi et vous avez le droit aussi de ne pas savoir de quoi je parle. En fait, mais la personne qui avait la formule idéale pour contrer la peur de parler en public, c'est la poudre. Bon, là, je sais, ça trahit mon âge, mais c'est pas grave. Il y en a plusieurs qui connaissent la poudre, il y en a plusieurs qui la connaissent pas. C'était une artiste québécoise qui a vécu au-delà de 100 ans, puis elle avait une phrase qui était « J'aime mon public et mon public m'aime ». Et ça, c'est la phrase magique. C'est la baguette magique pour parler en public. C'est-à-dire que si vous avez la conviction profonde et inébranlable que les gens vous aiment, qu'ils vous apprécient, que vous les aimez en retour, ça fait comme l'espèce d'effet miroir, c'est magique. D'ailleurs, quand je prépare des gens pour des entrevues, c'est la programmation qu'on fait. C'est les gens qui me posent des questions, sont intéressés par mes réponses, ils m'apprécient, ils aiment ma candidature, etc. Et ça, ça nous met dans une énergie d'agréabilité. Donc, l'idée, c'est la même chose. Les gens dans l'audience même, je connecte avec eux, on s'apprécie. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, la pépite. La croyance pépite, là, ils m'aiment et je les aime et on s'aime. C'est la croyance pépite pour aider à se mettre dans un état facilitant pour parler en public. L'autre chose qui est importante de savoir, c'est que le jugement appartient à la personne qui juge. C'est-à-dire que si la personne n'apprécie pas ma présentation, mon contenu, ça ne veut pas dire que mon contenu n'est pas intéressant, n'est pas pertinent ou n'est pas... C'est l'appréciation de cette personne-là. Ça parle de elle et non pas de moi. Et ça, c'est important. Et la personne a le droit de juger. Ça lui appartient. Absolument. Et ça ne change pas ma valeur. Cette personne-là qui m'apprécie, elle ne me donne pas de la valeur. Puis si elle ne m'apprécie pas, elle ne me donne pas de la valeur non plus. Ma valeur est constante. Je vais être la même personne avant la présentation, après la présentation, pendant la présentation. Ma valeur ne va pas changer que j'ai une bonne performance ou une performance moins intéressante. C'est une autre croyance qui est importante de garder. Les gens ne peuvent pas vous rejeter. On n'est plus autant des cavernes. Vous n'allez pas être rejeté, manger, dévoré et être toute seule et perdre votre emploi. À moins que vous fassiez quelque chose de vraiment énorme. C'est le dialogue intérieur qui vous fait du mal, qui a plus d'impact sur vous que sur votre performance. Oui, il y a des techniques, on s'entend, qui rendent une présentation plus agréable, plus facile à suivre. Et l'idée, c'est ça, c'est que dans la programmation, la voix est claire, les idées sont claires, les concepts sont bien expliqués, les gens comprennent bien ce que vous dites, vous êtes détendu, votre début de voix est absolument cadencé, approprié, vous souriez, vous regardez les gens, ils vous sourient en retour, ils vous apprécient, etc. Et l'idée, c'est de créer ces croyances que vous parlez à la bonne vitesse, que vous articulez, que vous êtes calme, que votre battement de cœur est régulier, que vous êtes bien reposé, que vous avez une énergie communicatrice et que vous êtes un excellent communicateur, que les gens apprécient, boivent vos paroles. Et là, vous voyez aller, right? Et ça, quand on l'entend constamment, en fait, on est en train de défaire ou de créer un nouveau chemin neuronal, un nouveau familier. Donc, s'il y a une croyance que je vous encourage vraiment à incorporer quand vous allez faire une présentation, c'est mon public m'aime et j'aime mon public et mon public m'aime. Les gens m'aiment, même en retour. ils boivent mes paroles, ils sont intéressés par ce que j'ai à dire. Je m'intéresse à eux, je communique avec eux, etc. Et ma valeur est constante. Ma valeur, elle va être la même avant, pendant, puis après. Donc, il y a personne qui a le pouvoir de me donner de la valeur ou de m'en enlever. Elle est là, je suis qui je suis. Et en fait, les gens ne peuvent pas vous rejeter. Le jugement appartient à la personne qui juge. Et puis ça, intégrer ça, ça va vous donner beaucoup d'espace et de latitude pour vous laisser aller. Puis, évidemment, c'est d'écouter l'enregistrement plusieurs fois pour vraiment bien se préparer. Et de ne pas laisser la barre, les autres mettre la barre ou mettre la barre tellement haute. L'idée, il n'y a pas de barre, c'est vous qui êtes là, vous avez un sujet. La plupart d'entre nous, à notre âge, quand on présente, on maîtrise assez bien notre sujet. Si vous ne maîtrisez pas votre sujet, ben c'est d'aller poser des questions, de devenir vraiment à l'aise et confortable avec votre sujet. Et c'est toujours OK de dire qu'on n'a pas la réponse à une question, qu'on va revenir au groupe. Les grands experts font ça, je ne sais pas, je vais vous revenir. C'est correct. Il n'y a pas d'obligation d'avoir toutes les réponses, puis il n'y a même pas de possibilité, c'est même pas une possibilité sur la planète d'avoir la réponse à toutes les questions. Vous n'avez aucun contrôle sur la question qu'on va vous poser, sur la personne derrière la question. Donc, l'idée de ne pas avoir la réponse, c'est absolument acceptable, même comme expert en 2022. J'espère que cet épisode-là vous inspire à savoir que c'est quelque chose de très facile à changer. Si vous avez des enfants, l'idée de leur dire combien tu penses qu'il y a un petit garçon hier qui connaissait pas la réponse. C'est l'enfant qui arrive en pleurant. Bon, c'est sûr que c'est de reconnaître évidemment comment il sent, de se mettre à sa place, d'avoir une écoute empathique, mais c'est aussi de le ramener dans une espèce de réalité puis de dire, tu sais, je pense que t'étais pas le seul petit garçon hier sur toute la planète qui savait pas la réponse. Puis il y a à tous les jours, partout sur la planète, il y a des petits garçons, des petites filles qui connaissent pas la réponse. Puis c'est OK. OK? Puis, c'est impossible d'avoir la réponse à toutes les questions. Puis c'est correct, ça arrive. L'idée, je pense que d'aimer les gens qui vous parlent, à qui vous parlez, ça fait beaucoup de chemin. Ne serait-ce que cette espèce d'énergie-là va vous aider pour calmer les palpitations des légères. C'est sûr que si vous ne dormez pas plusieurs nuits avant, et que vous êtes absolument nerveuse et que ça vous empêche de fonctionner, ça peut être intéressant qu'on aille voir ensemble comment se sont formées les croyances qui vous amènent aujourd'hui à avoir ces réactions-là. Alors, jusqu'au prochain épisode, je vous encourage à réfléchir à ces moments où vous vous sentez nerveux quand vous devez présenter en public et à laisser de les voir. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moment où vous avez formé des croyances à votre sujet, notamment que vous n'êtes pas intelligente, des choses comme ça, et que c'est ça qui tourne au moment où on vous dit que vous devez aller présenter en public. Alors, jusqu'à la prochaine, comme vous savez, c'est juste une croyance. C'est juste une croyance et évidemment, je vous invite à réserver 30 minutes gratuites si vous souhaitez discuter avec moi de vos enjeux.